Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est votre Énervé, le magazine de la bonne double soirée. Et oui, ça commence dès 18h en avant-première, vous le savez, sur franceinter.fr et en podcast. C'est la nouveauté hein, pour l'année. Et puis 22h minuit à l'antenne, comme tout le monde. Ce soir, une émission L'Art des Femmes. Avec Jeanne Mas, de toute première fois à Rodrigue à Tue du Cœur, retour sur une carrière hors norme entre l'Italie, la France et les États-Unis. Jeanne Mas, héroïne des années 80, du rouge, du noir bien sûr, des crises de l'âme et une volonté farouche de diriger ses choix artistiques. La preuve que vous êtes toujours une femme d'aujourd'hui. Jeanne Mas, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Michel Fitoussi, elle est journaliste, elle est romancière. Il fallait bien cela pour retracer le parcours d'Elena Rubinstein, qui s'expose actuellement au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Une femme qui s'est totalement inventée, qui a tout maquillé, sa vie, son âge, son image, et qui a fait de la beauté des femmes une aventure personnelle. Michel Fitoussi, bonsoir.
Bonsoir.
Les nouveautés nouvelles pour Marion Guilbeault, c'est-à-dire qu'on va tout savoir du meilleur de la musique à venir.
De ce qui sort demain, Laurent, le mur du son pop avec le groupe Minor Poet, une odyssée psyché avec Acropolis Bye Bye, et pour la première fois, les collages sonores de Mathias Hainaut.
Et dans le Énervé la suite, voyage en zone interdite, le tourisme, une aventure de tous les dangers, Benoît Lagan.
Oui, suite à la libération des deux touristes enlevés au Bénin, la mort des deux soldats, on s'intéresse en deuxième heure donc au tourisme dans les régions dangereuses et on pose la question, voyage en terre inconnue ou en zone interdite, et pour y répondre, le PDG de Terre d'Aventure, Lionel Abasque, la journaliste du Figaro, Valérie Sasportas, et l'écrivain aventurier, ex-président de la Société des explorateurs français, pas moi, Patrice Franceschi.
Le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
L'Art des Femmes, c'est ce qui vous réunit ce soir, Jeanne Mas et vous, Michel Fitoussi. L'Art des Femmes, c'était le titre de votre quatrième album, Jeanne Mas. Et c'est aussi la mission d'Elena Rubinstein qui s'expose au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme. Vous connaissiez l'une l'autre ?
Non, non. Pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai dit à Jeanne que je l'attendais en brune, c'est-à-dire si mes souvenirs d'elle étaient lointains.
Elle a changé de couleur plusieurs fois.
On évolue,
m'a-t-elle dit. Oui, tout au long de ce parcours. Il y a eu du noir au départ, il y a eu du rouge à un moment donné, un blanc platine.
Oui. J'ai aussi fait le bleu et qui a viré au gris. Ça, c'était un peu moyen. J'ai fait le vert.
Et blonde là, depuis combien de temps, alors? C'est le côté californien?
Oui, c'est le côté j'en ai marre d'abîmer mes cheveux avec des teintures dans tous les sens. Donc, ça fait très longtemps, hein, depuis que j'habite aux États-Unis, donc 14 ans.
Vous êtes exilée aux États-Unis ou vous vivez aux États-Unis?
Je vis aux États-Unis.
Mais exilé, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est presque, on va dire, la fin du livre. C'est-à-dire que vous prenez un billet...
Sans retour.
Sans retour.
Vous allez sans retour.
Ouais.
Et on s'installe aux États-Unis, dans l'option de ne plus jamais revenir. Mais je suis revenue.
Jeanne Mas, programme chargé hein, en ce mois de mai et de juin. Une compilation en 3 CD qui vient de sortir. Un album à venir, Goodbye, je reviendrai à la fin du mois. Un Star 80 au Stade de France samedi. En préparation, une pièce de théâtre pour la rentrée. Et la publication de Réminiscence chez Flammarion, un livre de souvenirs et une biographie. Vous êtes complètement surbookée.
Oui, et vous avez oublié l'Olympia
oublié.
En 2020.
Il reste une petite place.
Oui, voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai que ce livre a une grande importance parce que j'ai mis beaucoup de temps à me décider de l'écrire et que voilà. Donc, je reviens sur ces années de gloire où les gens ont connu Jeanne Mas justement en brune et les cheveux courts avec ses toutes premières fois Johnny en rouge et noir et tant d'autres. Et donc.
Et pas que voilà. Ça, il n'y a pas que ces années-là, il y a vraiment tout le parcours, parce qu'il n'y avait pas eu que ces albums. D'abord, au Stade de France, pour Star 80, vous avez prévu quelle chanson? J'imagine qu'on vous a demandé toujours les mêmes. Pour Star 80, c'est
non,
la règle du jeu.
Non, on m'a rien demandé, on m'a dit de faire ce que je voulais faire.
Et alors, qu'est-ce que vous allez faire?
Eh bien non, je ne vais pas le dire, parce que sans ça, il n'y a pas de surprise pour ces
gens. J'imagine quand même qu'il y a tout en noir. Tout
en rouge et noir pour une
chanson,
fois.
Tout en même temps.
Toute première fois, vous vouliez dire.
Ouais, quand même,
mais ça, je ne peux pas le dire.
Bon.
Mais non, je ne dirai pas, faut venir.
Des inédits? Des chansons inédites?
Non, ce ne sont pas des inédits, mais une chanson qui n'est pas de moi.
Très bien. Ah, qui est de Daniel Balavoine, alors.
Ah,
il faudra voir, on y reviendra.
Allez, l'exclu, oui, mais je ne vous dirai pas laquelle.
Alors, j'imagine que vous allez retrouver des collègues de l'époque. Vous êtes resté en contact avec certains ou certaines d'entre eux?
À part Jean-Luc Lahaye, qui est un ami, non, avec personne. Non,
donc
de temps en temps, parce que lui, il aime faire du parachute. Il est venu dans l'Arizona faire du parachute. Donc, et puis, quand j'habitais à New York, il adore New York. Donc, il était souvent à New York. Donc, on se voyait à ce moment-là. Mais c'est tout.
Alors, vous revenez sur votre parcours dans Réminiscence. Vous y parlez beaucoup de musique, bien sûr, des enregistrements, de la personnalité de vos producteurs, de Romano Musumara. C'est le compositeur qui avait marqué le son de la chanson française dans les années 80. On se souvient, bien sûr, vous, Elsa aussi. Puis, bien sûr, Stéphanie de Monaco. De Daniel Balavoine aussi, qui a marqué votre discographie. Ça, on y reviendra. Mais ce qui se dégage, c'est que très tôt, très vite, vous avez su que vous vouliez être dans la lumière. Ça voulait dire chanter ou ça aurait pu passer par autre chose?
Je crois que chanter était avant tout interpréter. Moi, en fait, on dit souvent t'es une chanteuse. Moi, je me sens plus une interprète parce qu'en fait, je joue aussi avec les mots, mais je joue aussi avec mon interprétation, avec le corps, avec les regards, avec tout ça. Donc c'est un plus. Je me contente pas juste de mettre ma voix avec des mots sur de la musique.
Ah, mais je me souviens des intentions dramatiques, des gestes que vous aviez quand vous chantiez.
Oui. Voilà, c'était tout ça. Donc c'est plus interpréter et. Et donc en Italie, c'est vrai que j'ai commencé d'abord à faire du cinéma, des pubs, à être speakerine dans une chaîne de télé.
Vous faisiez tout et n'importe quoi. Jusqu'à ce qu'on vous vire,
presque.
Non,
je me cherchais, je voulais juste qu'on me remarque.
Mais quand vous étiez speakerine, vous posiez un peu problème.
Ah oui, ça c'est vrai que c'était... Ah bah oui, parce qu'on se rendait pas vraiment compte. On était dans un petit studio avec un autre coéquipier. Et puis c'est vrai que moi, je prenais... Comme je suis du genre quand même à vouloir m'amuser. Là, je m'amusais peut-être un peu trop. Je ne réalisais pas que de l'autre côté, il y avait des gens. Et c'est au moment où ils ont voulu me virer que les gens ont pris ma défense en disant « Mais non, elle est trop sympa, faut la garder. » Et du coup, là, j'ai fait attention à ce que je faisais.
Il y a peu de choses personnelles dans cette autobiographie, sur votre enfance, sur votre famille. Très peu d'indices sur le milieu d'où vous venez, juste un lieu, Garches, les Hauts-de-Seine. Est-ce que vous avez peur de ce que vous appelez dans le texte une psychanalyse expéditive? C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu aussi tout le temps une défiance pour les questions trop personnelles, Jeanne Masse?
Oui.
Pour les évacuer, même dans la biographie?
C'est-à-dire qu'en fait, ce que je voulais, c'était juste raconter les coulisses de ma carrière. C'est une biographie artistique. J'insistais sur le mot artistique, parce que je n'avais pas l'intention de parler ni de mon enfance, ni de mon adolescence, vraiment comme ça. Surtout pas mettre mes parents sur le devant de la scène, ma famille. C'est quelque chose qui doit rester chez nous, ça. Et en plus, mes parents n'ont pas décidé que je devienne artiste. Donc, c'était impossible pour moi.
Ils ne l'ont vraiment pas décidé?
Non.
Non. Ils étaient contre?
Non, moi j'ai commencé ma carrière en Italie et j'étais toute seule. Donc non, ils n'ont rien décidé.
Ça peut vouloir dire que vous aviez fui votre milieu familial pour pouvoir vous émanciper en Italie. Vous dites que j'ai commencé toute seule.
Vous n'êtes pas loin.
Ah ben voilà.
Oui, vous n'êtes
pas
loin.
On peut quand même trouver des choses à l'intérieur, entre les mots.
Mais voilà.
Michel Fitoussi, votre sujet, vous, c'est Elena Rubinstein, exposée au musée. Vous lui aviez déjà consacré une biographie en 2010. Au départ, qu'est-ce qui vous a intéressé chez cette femme? Vous qui avez travaillé comme grand reporter à elle, vous vous êtes mobilisé pour le droit des femmes et l'égalité. Qu'est-ce que vous avez trouvé en elle pour lui consacrer à la fois une bio et aujourd'hui une exposition?
C'est une femme hors norme. C'est une femme qui sort de l'ordinaire. C'est une femme d'avant-garde. Elle commence sa vie en 1872 à Casimir, ce qui était un faubourg juif de Cracovie. Pauvre, dans une famille modeste, l'aînée de 8 filles. Et elle la termine en 1965 à New York. Elle est milliardaire, elle a créé un empire de la beauté, une culture de la beauté. Tout ça toute seule.
Vraiment toute seule.
Elle a eu des maris, en tout cas un mari qui l'a aidée, qui a été son mentor. Mais l'aspect financier des choses, c'est elle. Pas comme Coco Chanel qui a eu des amants riches, Boy Capel ou Étienne de Balsan pour la financer, ce qui n'enlève rien à son mérite. Mais Elena Rubinstein, c'est toute seule. Et en plus, c'est... vraiment une aventurière, dans le premier sens du terme. Elle quitte la Pologne, elle se rend à Vienne, puis on l'expédie en Australie parce qu'elle est rebelle et qu'elle ne veut pas se marier, milieu orthodoxe, milieu juif orthodoxe. Elle s'émancipe à la fois de sa famille, de sa religion et aussi du destin des femmes de son temps.
Elle se rajeunit déjà pendant le voyage.
Exactement.
Elle perd 9 ans,
c'est
toujours beau à gagner.
C'est vraiment encore plus efficace qu'une crème de beauté que de facilifier son passeport. Elle change son prénom, elle s'appelle Elena, qui est un prénom moderne, elle est plus Chaya Rubinstein. Elle changera jamais son nom de famille, elle restera toujours Rubinstein. Et à partir de là, à partir de l'Australie, à partir de Melbourne, où elle recrée une crème de beauté que sa mère lui avait glissée dans sa valise, en 1901 et en 1902, elle ouvre son tout premier salon de beauté qui ne ressemble à rien.
Elle va, de ce que l'on pouvait voir, parce que
rien n'avait été créé. Elle imagine un boudoir à la française, elle n'a pas beaucoup d'argent, elle teint ses jupons pour en faire des rideaux, elle chine un mobilier qu'elle repeint, et elle fait venir les premières clientes avec une blouse blanche comme celle d'une scientifique et un accent yiddisho, allemand, polonais. Et elle se présente comme une comtesse viennoise qui a inventé l'art de la beauté. Et ça marche. Parce que c'est la reine du marketing et la reine de la publicité déjà en 1903.
Une sorte de Karl Lagerfeld avant la lettre. Mais c'est vraiment cette construction-là.
Ouais. C'est vraiment ça. Et vous ne croyez pas si bien dire, parce que quand Karl Lagerfeld est mort, je terminais de préparer l'exposition. Et vous savez, Elena Rubinstein collectionnait les maisons miniatures.
Les maisons de poupées.
Les maisons de poupées, enfin les intérieurs miniatures. Il y a à peu près 20 000 pièces vintage, toutes faites à la main. Et chacune représente un décor bien précis. Et je me disais que Karl Lagerfeld avait fait grandeur nature ce qu'elle faisait, puisqu'elle était une férue de décoration, d'architecture, de sculpture.
Et que lui, il avait collectionné les maisons grandeur nature.
Grandeur nature, absolument.
Grandeur nature de son côté.
Absolument.
Vous connaissiez l'aventure d'Elena Rubinstein, Jeanne
Masse? Je la trouve vraiment fascinante et je vais chercher, je veux en savoir plus sur elle.
Bah
déjà parce que c'est une femme indépendante et que je trouve que les femmes devraient être plus indépendantes, qu'elle ne s'est jamais mariée, j'adore ça.
Elle s'est mariée deux fois.
Mais elle a choisi ses maris. C'est elle qui a entretenu ses maris.
Ouais. Dans les deux cas.
Voilà, dans les deux cas.
Et l'autre était beaucoup plus jeune qu'elle.
Et l'autre était un prince géorgien qui avait 23 ans de moins qu'elle, Archil. Elle est devenue princesse Gourielishkonia puisqu'il s'appelait ainsi. Et il n'a jamais rien fait de ses 10 doigts et elle a inventé la beauté pour homme dans les années 40 pour le faire travailler. Mais il n'a jamais voulu travailler.
On va revenir sur ces deux parcours dans quelques instants avec vous deux. Mais d'abord, on vous a demandé des sons pour mieux faire connaissance. Un son de télé pour vous, Jeanne Masse.
Un sorcière bien aimé.
Oui, pour quelle raison?
Mais parce que je regardais ça quand j'étais gamine, quand j'étais petite, et que j'ai toujours rêvé d'être ma sorcière bien aimée. Du coup, maintenant, c'est moi qui le fais.
Ah, mais c'est vrai. Alors là, c'est pas très radiophonique, mais vous arrivez à le faire. Ouais.
J'arrive à le faire. Faites-le avec le son.
Ça y est.
Voilà.
On l'a avec nous.
Ouais, donc j'attends, j'arrête pas de le faire pour qu'on me dise. Ok, est-ce que je pourrais être la nouvelle sorcière bien aimée, s'il vous plaît? J'adorerais faire ce téléfilm.
Un son de publicité pour vous, Michel Fitoussi. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est lié aussi au magazine Elle.
C'est lié à mon adolescence, 14-15 ans, la découverte de ma féminité, les collants qui libèrent la femme, Dim, découverte du féminisme aussi, et puis bien sûr lié au magazine Elle, je suis rentrée bien plus tard, mais pour moi c'est vraiment toute l'époque des femmes qui se libèrent après, dans les années 70, et ça m'a beaucoup beaucoup marquée. Et je trouve que cette pub est un très bel emblème, parce que quand on la revoit, ces jeunes femmes qui dansent, qui chantent, avec des talons très hauts, des collants, c'est merveilleux.
Un son animal pour vous, Jeanne Masse. Ça vous attendrit ou ça vous effraie?
Oh, mais oui, j'adore, parce que moi, je vis ça régulièrement chez moi dans l'Arizona. Donc, les coyotes ont des périodes où ils s'appellent entre eux et très souvent, je les croise quand je vais faire mes randonnées. Et je suis fascinée par le monde sauvage, par le monde des vivants, des autres espèces. Et j'adore les coyotes. Et en plus, ils sont tellement craintifs, tellement fragiles. Moi, des fois, j'ai peur parce que quand ils viennent en meute, quand je les revois, je leur fais tcha-tcha, tcha-tcha. Et ils s'en vont. Donc, après, je peux passer. Mais de les entendre, vous savez, c'est souvent la nuit. Et ça me fait venir la chair de poule parce que je les aime.
Vous vivez où en Arizona?
Je vis au nord de Phoenix, c'est vers les collines, en allant un peu vers Scottsdale. Donc, c'est un bel endroit. Et donc, comme j'ai des collines en face où je peux aller faire mes randonnées, je croise les coyotes.
Un son politique pour vous, Michel Fitoussi.
Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils.
Ça fait deux jours qu'on nous fait le coup de Yves Montand. C'était avant-hier ou hier, je crois, oui. Pour vous, Michel Fitoussi.
Chair de poule avec les coyotes pour Jeanne Masse. Pour moi, quand j'entends cette chanson, que j'ai découverte quand j'étais enfant, quand j'allais en home d'enfant, c'était un garçon de mon âge, il avait 9-10 ans, qui l'a chanté. Et j'étais en home d'enfant au Chambon-sur-Lignon, par hasard. Cette chanson, pour moi, a une double signification. J'ai appris bien plus tard ce qu'était le Chambon-sur-Lignon, le village des justes, des protestants, des Cévenols qui avaient sauvé des juifs et des résistants pendant la guerre. Et puis ce chant dont j'ai appris plus tard aussi qu'il avait été écrit par une femme, la musique en tout cas, Anna Marley, une russe qui était musicienne, et les paroles bien sûr Joseph Kessel et son neveu Maurice Druon.
Et bien sûr, on a toujours parlé de Joseph Kessel et Maurice Druon, et jamais de cette femme.
Elle a aussi écrit ce qu'elle appelait la cousine ou le cousin de ce chant des partisans, qui était la complainte du partisan, immortalisé bien sûr par Leonard Cohen. Elle en a écrit la mélodie et c'est Emmanuel Dastier-Lavigerie, toujours à Londres, comme Kessel, comme Druon, qui en a écrit les paroles.
Et bien tout de suite, on va écouter une autre mélodie. C'est un classique incontournable de votre discographie, Jeanne Mas. Bien sûr, c'est En rouge et noir dans le NRV. C'est de notre côté Star 80 ce soir.
J'aurais commis moins d'erreurs, j'aurais su me rassurer. Toutes les fois que j'ai eu peur, je me serais blottie au chaud, à l'abri d'un vent trop fier. Et j'aurais soigné ma peau, blessée par les froids d'hiver. J'aurais mis de la couleur sur mes joues et sur mes lèvres. Je serais devenue jolie. J'ai construit tant de châteaux qui se réduisaient en sable. J'ai prononcé tant de noms qui n'avaient aucun visage. Trop longtemps je n'ai respiré autre chose que de la poussière. Je n'ai pas su me calmer chaque fois que je manque d'air. Mes yeux ne veulent plus jouer ce maquis d'indifférence. Je renie mon innocence. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur en échange d'une trêve de douceur. En rouge et noir, mes luttes, mes faiblesses, je les connais, je voudrais tellement qu'elles s'arrêtent. Tout serait si différent. J'aurais su vous pardonner. Je serais moins seule à présent. Somnambule, j'ai trop couru dans le noir des grandes forêts. Je me suis souvent perdue dans des mensonges qui tuent. J'ai raté mon premier rôle, je jouerai mieux le deuxième. Je veux que la nuit s'achève. Rouge et noir, j'exilerai ma peur.
Sur France Inter.
Jeanne Mas en 1986, un extrait de l'album Femme d'aujourd'hui avec une photo sur la pochette qui avait posé quelques problèmes à l'époque. C'est celle-là où on vous reprochait, enfin, quelqu'un de votre entourage vous a dit non, la photo ça va pas.
Oui, c'est Romano.
C'est ça.
Oui, oui, c'est Romano.
Romano Mosumara, comme d'habitude.
Qui a dit j'aime pas du tout la pochette de l'album, mais déjà ça m'a énormément étonnée parce que je la trouvais sublime et en accord avec ce que je disais dans l'album, et puisque tu l'es quand même Femme d'aujourd'hui et que je voyais les femmes comme des êtres aussi fragiles, femmes, et en fait je représentais un peu toutes les femmes sur cette pochette, et il m'a dit non mais j'aime pas. Et bon, alors on s'est un peu accroché, je lui ai répondu ton boulot est fini, ça c'est le mien, et puis il m'a dit mais je m'en fous, j'aime pas, et il est parti.
Ça a été difficile, hein, les relations avec Romano Mosumara, on en parlera dans quelques instants. Cette chanson, c'est un classique, vous vous souvenez du moment où vous avez écrit ce texte, de son histoire ?
Oui, je me souviens exactement du moment où j'ai écrit ce texte, parce que la base, En rouge et noir, avait un autre refrain, et qu'on m'avait proposé deux chansons, et je leur ai dit, écoutez, non, En rouge et noir, tel que c'est, ça ne va pas, donc on va prendre le refrain de cette deuxième chanson, on va le coller, et on en a créé cette, donc finalement, cette chanson existe aussi grâce à deux chansons séparées, séparément, et le En rouge et noir m'est venu spontanément. En fait, je ne réfléchis jamais quand j'écris des textes, et quand je réfléchis, ils sont atroces. Donc je laisse, en fait, ils viennent naturellement. Et quand les textes arrivent, je prends des notes. J'ai souvent du mal à les relire parce que j'écris très mal. Mais je prends des notes où ils viennent en voiture. Alors désespérément, je cherche un bout de papier en conduisant. Ils viennent, voilà, c'est les mots qui utilisent mon propre corps pour pouvoir dire ce que peut-être les gens ont envie d'entendre.
Et composer, vous l'avez fait ?
Oui, oui. Ouais, ouais. Ah oui, j'ai commencé à composer à un moment. Mon premier album a été Côté H, Côté Clean. C'était un album très rock.
Très rock
et très sax aussi. Parce que évidemment, pour moi, tout était lié. Mais c'était surtout une libération. J'avais envie de me libérer de cette étiquette années 80. J'avais envie de me libérer de mon look 80. J'avais envie d'exister différemment. Et je l'ai fait. Et bon, évidemment, je me suis un peu ramassée. Mais bon, c'est pas grave.
Payer le prix. Alors aujourd'hui, ça donne Réminiscence. C'est à la fois une compilation et une biographie artistique, puisque vous revenez sur ce parcours musical. Et c'est une compilation qui revient sur toute votre discographie. Ça ne se limite pas à Toute première fois, ni à En rouge et noir. Ce qui m'a intéressé, c'est vraiment, et on l'entend, on le lit dans la biographie, mais on l'entend dans votre compilation, c'est la façon que vous avez eue de travailler avec deux personnalités fortes, et ça passe par un titre, vous en donnez deux versions, Cœur en stéréo, la première est signée Daniel Balavoine. La seconde version, dans un registre totalement différent, c'est Romano Musmara. Aussi, on entend la différence quand même.
Ah, mais la première, c'est totalement Balavoine. C'est ouais. Absolument incroyable. Hein. C'est votre voix, mais j'entends derrière Daniel Balavoine. Et la deuxième, c'est encore vraiment tout à fait autre chose. C'est beaucoup plus vous, peut-être, ou c'est en tout cas vous qu'on imagine dans les années 80, qu'on a imaginé dans les années 80, dans ces chansons-là. C'est incroyable. C'est vraiment très, très différent. Et c'est très beau. Toutes les deux sont très belles. Très belle interprétation.
Laquelle vous préférez, vous ?
Balavoine.
Parce qu'il avait une façon de vous diriger beaucoup plus libre, en fait.
Oui, et puis même le son de ma voix, je la préfère dans la version de Balavoine que dans l'autre. Et puis c'est surtout que Balavoine m'a énormément apporté artistiquement et humainement. Avec Romano, c'était toujours difficile de travailler avec lui parce qu'il était très dur, très sévère avec moi, très « non ». Comme ça, il appuyait sur le bouton dès que je faisais une fausse note. Alors que moi, mes faussetés, en fait,
Balavoine les a gardées sur les enregistrements.
C'est intéressant ça, parce qu'on a vraiment l'impression que, effectivement, j'imagine moi qui vous connais et que j'aimais beaucoup, beaucoup ce que vous faisiez et ce que vous faites, mais j'imaginais pas ça, cette dureté de travail.
Ah, ça a été atroce quand on lit, mais ça a été atroce. C'est-à-dire qu'il vous faisait répéter, mais à l'infini, sans jamais vous donner d'indication,
oui,
sauf non.
Ouais, non. Voilà, il appuyait sur le bouton non. C'est horrible, c'était comme ça. Et Daniel, lui, lorsqu'il est venu, lui, il s'était déplacé, il était venu dans ma cabine de chant pour me dire, écoute, alors là, et moi, évidemment, je m'attendais à ça, j'avais chanté peut-être comme une patate, et il me disait, écoute, il y a des petites faussetés et tout ça. Bon, il m'a expliqué, parce qu'avant, il travaillait avec Catherine Ferry, qui, elle, vocalement, est toujours juste. Et donc, il m'a expliqué tout ça, et je lui ai dit, mais moi, je refais, il n'y a pas de problème, j'étais habituée à être
coachée durement.
Et il m'a dit, non, mais on va les laisser pas compris, tu m'as fait venir la chair de poule. Génial. Et c'est là que j'ai compris que j'étais pas une chanteuse, j'étais une interprète.
Alors ce qui m'a marqué vraiment dans cette biographie, c'est que vous êtes capable de dire non, de dire je ne veux plus travailler avec ce type, notamment avec Romano Musmara, d'annuler une tournée parce que les conditions ne sont pas réunies. Une énorme tournée en province où on vous supprime des musiciens, parce qu'en province, bien entendu, ils sont bons qu'à ça, de voir des spectacles version light, et vous dites non, si je ne peux pas continuer à travailler comme ça, j'arrête tout. Vous arrêtez. Et par ailleurs, quand vous êtes sous la coupe de Musumara en enregistrement, on vous voit complètement soumise, répéter à l'infini le travail, sans pouvoir dire autre chose que de tempérer.
Parce que c'était tout au début, en fait, tout au début. Mais en fait, on ne mettait pas en péril mon équipe. Quand j'ai rencontré Musumara et toute l'équipe qui est autour de Romano, il y avait Pierrot, il y avait Massimo Calabrese, il y avait tous ces gens-là. Donc c'est vrai que moi, j'arrivais du rock et je savais très bien qu'aucune maison de disques n'allait me signer avec mon rock à moi. Et donc, je suivais les conseils. Et donc, c'est vrai qu'il était déjà très, très dur à l'époque. Mais j'étais là, je me disais, c'est le métier, tant pis. Par la suite, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on mettait en péril mon travail quand on a voulu donc après Bercy m'envoyer en tournée avec d'autres musiciens et pas les musiciens avec qui j'avais créé ce spectacle. Déjà, je mettais mes musiciens au chômage et je trouvais pas ça juste parce que le producteur avait décidé qu'il fallait réduire
faire des économies pour la tournée en province.
Et donc je lui ai dit non, moi je partirai pas sans mes musiciens et sans et donc du coup la tournée a été annulée, ce qui m'a porté moi préjudice bien sûr. Mais j'ai toujours été très fidèle artistiquement avec mon entourage, parce qu'il faut respecter une artiste, elle ne vit pas seule, elle ne crée pas seule, elle est entourée d'autres talents. Il faut respecter ces talents-là.
Alors Musumara apparaît comme une sorte de monstre véritablement, et ce n'est pas la première fois qu'on entend des choses sur son travail. Il a des mots très durs pour vous au moment où vous recevez un disque d'or pour Femme d'aujourd'hui, un disque qui vous consacre, mais qui le consacre lui aussi. Et il vous dit...
Et il vous dit, et il me lance à l'oreille comme ça, je ne comprends pas ton succès. La vache. Vous avez travaillé combien de temps avec lui ? J'ai fait deux albums, dont le deuxième, c'était vraiment très, très douloureux, parce que on était forcés de travailler ensemble, et que déjà, moi, je supportais pas. On se supportait pas l'un de l'autre, parce que s'il n'y avait pas que moi, lui ne m'aimait pas, et moi, j'avais fini par ne plus le supporter. Et quand il m'a dit ça, là, je me suis dit, c'est bon, c'est stop, tant pis. Je savais pertinemment que je prenais un gros risque, parce que artistiquement, je veux dire, on arrivait à accomplir des choses extraordinaires.
Vraiment, il y avait un son, voix, des textes et une image qui étaient parfaitement cohérentes.
Mais vous ne pouvez pas travailler avec quelqu'un qui ne vous aime pas ou qui se demande « mais j'arrive pas à comprendre ton succès ». Non mais j'ai halluciné parce que je me suis dit « mais je te préviens, ce succès, tu es en train d'en bénéficier aussi » parce qu'il avait gagné énormément d'argent et recevait des disques d'or. Par contre, pour recevoir le disque d'or, il avait la banane. Mais c'est vrai que moi, je veux pas taper dessus comme ça parce que c'était quelqu'un, c'est juste ma relation avec lui qui était très difficile, mais c'est un homme qui a énormément de talent et qui a créé d'autres chose
qui vous a quand même spolié sur les droits d'auteur de la première chanson, toute première fois.
Oui, j'ai pas tout dit.
Ah oui, d'accord, Et vous n'avez pas tout dit, ouais.
Non, j'ai pas tout dit. C'est humainement, c'était pas top. Donc, et moi, je ne peux pas travailler avec quelqu'un si humainement ça ne se passe pas bien.
Alors, on apprend quand même d'autres choses, notamment quelques regrets, pas pour vous, mais quand on le lit, vous auriez fait L'été meurtrier et vous aviez passé le casting. Vous étiez même pour le rôle. C'était Becker qui vous avait choisi.
Oui, il est venu me chercher en Italie. Donc après, je suis venue en France pour faire des essais. Et après, il m'a appelé quelques jours après pour dire la production veut Isabelle Adjani. Ce que j'ai trouvé tout à fait logique, parce que moi, j'étais pas une grande comédienne. Et en plus, elle a tellement bien défendu le rôle que... Non, puis c'était formidable qu'elle le fasse. Moi je me voyais pas non plus là-dedans.
Pourquoi vous êtes partie en Italie si jeune, en fait ? Avoir fait carrière au départ en Italie et pas avoir choisi même un autre pays.
Je pense que j'étais prédestinée à l'Italie, en fait. C'est très, très bizarre, vous savez. Mais bon, ça, c'est des croyances qu'on a ou qu'on n'a pas. Moi, je pense que dans une vie précédente, j'étais italienne, certainement. C'est pour ça que j'ai appris l'italien très vite. En quelques mois, j'étais presque... je parlais l'italien couramment. Et quand je suis arrivée en Italie... En fait, on dit souvent que quand on revient quand on revient sur cette terre, on revit les premières années de sa vie précédente. Et en fait, moi, je suis repartie sur les pas de ma vie précédente. Mais voilà, je vais gonfler tout le monde avec ça. Et donc, j'ai vécu ce que je devais vivre. Et puis, je suis...
Réminiscence est une biographie, une autobiographie. Ce souvenir, c'est bizarre. J'ai pas l'impression que c'est vraiment votre truc, ce souvenir, que vous êtes plutôt quelqu'un qui va de l'avant. Et je me suis demandé, quand vous avez écrit cette autobiographie, on va dire artistique, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce parcours, ou peut-être les regrets que vous avez pu avoir, ou les colères que vous avez revécues en écrivant cela?
Ce qui m'a marqué, c'est cette spontanéité que j'avais tout le temps de dire ce que je pensais.
Qui vous a coûté cher.
Oui, voilà.
On va pas revenir sur la lettre à Mitterrand, oui, mais voilà. Ça vous a coûté cher.
Ça m'a coûté cher et ça me coûtait à chaque fois cher d'être. Et après, et jusqu'au moment où j'ai réalisé le danger que c'était, parce que les gens m'aimaient bien quand je rentrais en conflit, quand je défendais d'autres artistes. Et donc, du coup, je me suis dit attention, attention, parce que là, t'es sur. Là, en fait, tu alimentes ce qu'ils aiment pour faire aujourd'hui, on dirait le buzz. Et à l'époque, ça commençait à être un peu comme ça. Donc après, j'ai réalisé que c'était pas bien ce que je faisais et que c'est pas qu'il ne faut pas être sincère. Mais il y a des fois, il faut apprendre à se taire. Et ça, c'est la seule chose qu'il a fallu que j'apprenne par la suite. Shut up. C'est voilà. Mais ça, c'est le seul, c'est la seule chose. Bon, c'est l'apprentissage, hein, vous savez. Mais des regrets, j'en ai des milliers des regrets. Certes, c'est normal, parce que quand on regarde le parcours et au moment de l'écrire, je l'ai regardé mille fois et il y a des choses que j'aurais voulu mieux faire. Il y a des choix que j'aurais voulu faire différemment. Mais si je les ai faits à l'époque, c'est que je n'avais pas la connaissance d'aujourd'hui. Donc, comme j'ai toujours été honnête, directe, sincère avec dans tout ce que j'entreprenais, je pouvais pas faire les choses autrement. Quoi.
Juste une question personnelle, et vous n'avez pas droit à un joker, mais en même temps, elle n'est pas très difficile. Vos enfants font de la musique, sont dans le domaine du spectacle ?
Mon fils, oui. En fait, mon fils, il est dans le son, mais il fait les documentaires, ouais. Les films. En fait, il se fait tous les sons pour les émissions. Et ma fille, elle se lance dans l'écriture également, et elle va sortir un très joli livre justement sur les femmes dans le. On avait ça à la Salpêtrière au moment où on traitait toutes les femmes de folles et tout ça. Donc voilà.
Réminiscence est à la fois donc un livre chez Flammarion, une compile en 3 CD chez Warner. Goodbye, je reviendrai, l'album est prévu pour fin mai. Star 80, c'est au Stade de France samedi, au Groupama Stadium à Lyon le 1er juin. Une pièce de théâtre à la rentrée dans la peau d'un Superman. Et j'ai oublié quelque chose, l'Olympia. En 2020.
En 2020, c'est avril 2020, les 8 et 9.
On va retrouver dans quelques instants un autre parcours de femme hors norme avec Michel Fitoussi.
France Inter. Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard. Yeah.
Lohai, le single du duo le plus cool du rock américain The Black Keys sur France Inter.
Rendez-vous.
The length some women will go to just to look beautiful. Long lash, mascara and lash builder in one. Makes lashes longer, measurably longer and thicker. Waterproof too. Long lash, the lengths to which Helena Rubinstein will go just to make women beautiful.
Publicité vintage pour ouvrir ce plateau. Helena Rubinstein avec vous, Michel Fitoussi. Vous lui avez consacré une biographie en 2010. Vous récidivez aujourd'hui avec une exposition qui se tient au Musée d'art et du judaïsme à Paris. Helena Rubinstein, l'aventure de la beauté. Au départ, qu'est-ce que vous vouliez raconter ?
Dans l'exposition ou dans le livre ?
Dans l'exposition.
Eh bien, je voulais raconter son parcours, le parcours de cette femme qui est à la fois un parcours géographique puisque l'exposition
est rythmée par les villes.
Est rythmée par les villes où elle est née, Cracovie, où elle a d'abord émigré à Vienne et puis elle y est revenue ensuite. Et puis il y a eu ensuite Melbourne, très important, et puis Londres, et puis Paris, et puis New York, et puis Tel Aviv.
Et Tel Aviv où elle a eu une action politique.
Absolument. Enfin, elle a surtout une action artistique puisque elle a financé le musée, le pavillon d'art contemporain du musée d'art de Tel Aviv. Elle a donné quelques œuvres. Et d'ailleurs, à sa mort, les dirigeants du musée ont été un peu déçus parce qu'ils croyaient qu'elle allait leur léguer toutes ses œuvres, toutes ses collections d'art, ce qui n'a pas été le cas.
Elle avait une collection énorme.
Énorme, absolument énorme. Elle aimait la beauté sous toutes ses formes. Et dès lors qu'elle s'est intéressée à la beauté des femmes, elle s'est intéressée à la beauté des femmes les plus diverses, aux visages les plus divers. Et elle n'a eu de cesse que de collectionner des œuvres d'art. Elle a commencé par les arts premiers, 1908. C'est pas rien, c'est très tôt. Elle a eu sous l'influence de Jacob Epstein, qui était un ami de son mari, un sculpteur qui habitait Londres. Il savait qu'elle allait à Paris souvent parce qu'elle avait ouvert un salon de beauté à Paris, où elle allait s'installer ensuite. Et l'envoyait à Drouot. Et c'est comme ça qu'elle a été en rapport avec ses premières œuvres d'art primitif. Et elle a toujours dit qu'elle aimait la beauté sous toutes ses formes, qu'elle aimait la beauté bizarre, qu'elle aimait la beauté forte, qu'elle aimait son propre goût. Et elle a toujours dit, après avoir amassé des collections incroyables de peintures, de sculptures, d'art premier, que c'était pas l'appât du gain, que c'était pas l'idée de faire des affaires, du profit qui l'animait, mais plutôt son instinct. Et parfois elle s'est trompée, parfois elle a acheté des choses pas très jolies. Elle disait qu'elle achetait en gros, en quantité, pas en qualité. Je crois qu'elle était un peu modeste de ce côté-là, parce qu'elle a acheté vraiment de très belles choses. Et c'est ce qu'on montre aussi dans
l'exposition. Il y a quelques œuvres, mais il y a aussi beaucoup de photographies.
C'est ça.
Et ce qui m'a vraiment intéressé dans ce parcours, on va revenir bien sûr sur cette femme, c'est que les photographies révèlent véritablement qu'elle a été mariée deux fois. On en a parlé tout à l'heure. Jamais sur les photos, elle n'est présente avec son mari. Elle est toujours seule, photographiée seule, toujours des portraits, toujours retouchés d'ailleurs, parce qu'il y a un moment où on voit le vrai portrait et la façon dont il a été retouché à l'époque, déjà à l'époque, donc une sorte de construction de soi. Elle est toujours seule sur les photographies, ou alors avec un artiste ou une œuvre d'art.
Ou alors dans un de ses salons de beauté, dans ses usines. Dans
avec une blouse, pour faire croire qu'elle était une grande scientifique.
Voilà. En fait, elle a très vite compris, très jeune, dès qu'elle a ouvert son premier salon de beauté, dès qu'elle a commencé à lancer sa marque, l'Australie, il fallait vraiment...
Melbourne, quand même, à cette époque. Ouais.
Elle a compris très vite, parce qu'elle a rencontré des gens qui l'ont aidée quand même. C'était une femme qui absorbait tout, elle avait une capacité d'absorption incroyable et l'intelligence de tout mixer et de se projeter en avant. Et donc, elle a compris que la publicité et le marketing et la presse étaient très intéressants. Elle a fait appel à des égéries très vite, mais elle a compris que sa propre image, finalement, représentait sa marque. Et elle s'est toujours fait photographier pour montrer Helena Rubinstein en scientifique dans ses usines, portant des vêtements haute couture, puisqu'elle a commencé à s'habiller en haute couture dès 1905 avec Worth. Et elle a terminé avec Saint Laurent en 1962. Elle était au premier rang dans le défilé. Et puis, bien sûr, Chanel, Poiret, Balenciaga ou Schiaparelli. Et puis, ses appartements somptueux où elle avait toutes ses œuvres d'art. Et bien sûr, ses salons de beauté, parce que ces salons de beauté, c'était presque des musées. Elle mettait ses collections de peintures, ses collections d'œuvres d'art, ses tapis. Elle a, dans l'exposition, on voit un tapis signé Lursa, Jean Lursa, édité par Marie Cutoli, qui était une de ses amies dans les années 30, qui éditait des tapisseries signées par les plus grands artistes contemporains. Une tapisserie signée Picasso, c'est une très très belle pièce et elle figure dans l'exposition prêtée par une collectionneuse privée. Vraiment, elle a été l'artisan, enfin l'égérie de sa propre marque tout le temps.
Alors juste un mot sur Picasso, parce que bien sûr, elle a été courtisée par bon nombre d'artistes de l'époque qui ont fait son portrait régulièrement, sauf un qui a toujours résisté, mais vraiment résisté pied à pied, c'est Picasso. Et pourtant, elle est allée frapper jusqu'à la porte de son atelier.
En fait, elle connaissait Picasso depuis les années 20. Elle avait acheté nombre d'œuvres d'art de Picasso. Elle avait des très belles œuvres de Picasso. Et elle voulait absolument que Picasso la peigne. Après tout, Dali l'avait peinte, Tchelitchev l'avait peinte, Marie Laurencin l'avait peinte, Dufy l'avait peinte. Pourquoi pas Picasso ? Picasso ne voulait pas.
Pour quelle raison ?
Parce que il pensait... Alors ça, c'est une interprétation due à son biographe, John Richardson, qui est mort il y a quelques temps. Il avance comme explication qu'il avait peur d'elle. Picasso avait peur de Madame Rubinstein et il pensait, parce qu'il était superstitieux, que s'il terminait le portrait de Madame Rubinstein, eh bien, il allait mourir. Et la meilleure façon de ne pas terminer un portrait, c'est
de rester immortel, c'est de ne pas le commencer.
En fait, il a fait des dessins.
De ses mains.
Oui, il a fait une trentaine de croquis absolument formidables de ses mains, de ses bijoux, de son profil, un peu cruel d'ailleurs. Mais jamais, jamais. Et pourtant, elle l'a supplié, elle lui a envoyé des cadeaux, elle a envoyé des cadeaux à sa femme Jacqueline, elle est allée frapper à la porte de la Californie, la maison qu'il occupait sur les hauteurs de Cannes dans les années 50, mais rien à faire, il a refusé.
Sur le plan de la beauté, qu'est-ce qu'elle a véritablement inventé ?
Elle a inventé pas mal de choses. Oui, tout et rien.
Elle disait, il n'y a pas de femmes laides, il n'y a que des femmes paresseuses.
Et elle disait surtout, la beauté c'est le pouvoir. Et déjà, elle a inventé pour les femmes une culture de la beauté et elle leur a dit, c'était pas tellement soyez belles pour séduire les hommes, c'était une beauté de combat, une beauté de dignité, sortez de chez vous, réinventez-vous.
Faites du sport.
Faire du sport.
Elle a inventé des gymnastiques.
C'est ça, la gymnastique, l'hydrothérapie, les massages, les crèmes pour la protection solaire, très important la protection solaire. Les crèmes aux hormones, elle a inventé l'hydratation, elle a compris qu'on pouvait classifier la peau en trois, en peau sèche, peau mixte et peau grasse. Elle a très bien compris et elle a surtout aussi compris que la beauté était quelque chose qui se vendait, mais qui se vendait de façon différente du reste. C'est-à-dire que toujours ces crèmes étaient très chères parce qu'elle disait que les femmes, quand elles achetaient quelque chose de très cher, même si elles pouvaient acheter que ça, c'était déjà très important, ça avait quelque chose de magique. Et puis, elle leur apprenait aussi comment mettre ces crèmes. Et elle a formé aux États-Unis des femmes, elle a ouvert des écoles.
Il y a des photos où on voit des femmes en train d'apprendre comment on se passe des crèmes.
Et elle a appris aussi à des démonstratrices, à des esthéticiennes, comment on passait ses propres crèmes.
Alors, elle avait véritablement une idée sur tout, absolument. Elle contrôlait absolument tout, même les textes et la publicité. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment une femme de pouvoir. Elle écrit des lettres, elle est un peu comme vous, un peu sanguine, Jeanne Masse, elle écrit des lettres, notamment à un type en lui disant qu'il est en train de bazarder l'image de sa marque, et elle lui demande de brûler cette lettre. Et à côté, il y a une autre lettre où elle demande à une femme qui a un nom juif de changer de nom, puisqu'elle a été victime elle aussi de l'antisémitisme, on y reviendra, et de brûler cette lettre.
C'était un tyran. Elle adorait écrire. Elle écrivait tout le temps, surtout quand elle était en voyage sur les bateaux. Elle avait rien à faire, donc elle écrivait des lettres tout le temps. Et elle contrôlait tout absolument. Et elle voulait pas que ça se sache. Elle était assez méfiante, mais elle contrôlait ses usines dans le monde entier, puisqu'elle en avait dans le monde entier. Sa famille, parce qu'elle mettait sa famille. Ses sœurs ont tenu ses différents salons de beauté. Elle avait 7 sœurs, donc il fallait bien les occuper aussi. Ses fils, ses neveux, sa nièce, tout ce petit monde qu'elle tyrannisait auquel elle envoyait chaque fois des lettres communicatoires pour leur expliquer ce qu'ils devaient faire et tout le monde tremblait devant elle.
C'est peut-être pour ça que Picasso n'a pas voulu la peindre.
Elle était très autoritaire.
Il avait senti.
Elle était très autoritaire à la fin de sa vie. Mais il faut savoir que c'était une petite femme. Elle mesurait 1m47. Qu'elle est arrivée en Australie toute seule, par bateau. Elle a mis 2 mois à traverser la moitié du monde. Elle est arrivée chez 3 oncles à 300 km de Melbourne qui l'ont tout de suite mise comme vendeuse dans leur bazar et pendant des années à la vie des fermières qui avaient une peau abîmée, d'où d'ailleurs l'idée de fabriquer des crèmes de beauté parce que c'était un marché qui n'existait pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle s'est battue. Elle s'est battue toute seule, elle a eu faim, elle a souvent désespéré. Elle avait 30 ans quand même si elle s'était rajeunie de 9 ans, quand elle a commencé à réussir. Donc ces 30 années difficiles ont toujours pesé sur elle. Et puis je ne crois pas qu'on fait d'omelette sans casser les œufs. Je veux dire par là que cette icône qu'elle a été, cette impératrice de la beauté, comme l'appelait Cocteau, on ne peut pas être gentil et béni, oui.
Elle a souffert de l'antisémitisme ?
Elle a rencontré l'antisémitisme. Je ne sais pas si elle en a souffert parce qu'au fond, c'était une battante.
Ah oui, ça n'a jamais été une victime.
Voilà, ça n'a jamais été une victime.
À un moment donné, dans l'exposition, il y a cette anecdote. On lui refuse un appartement à New York de location sous prétexte qu'elle est juive. Qu'est-ce qu'elle va faire ?
Eh bien, elle achète l'immeuble.
Mais c'est drôle. J'ai fait la même chose aux États-Unis. On ne voulait pas me louer un appartement parce que je n'étais pas encore américaine. Et du coup, j'en ai acheté deux.
Et donc voilà. Et d'ailleurs, ce qui est très remarquable, c'est qu'elle n'a jamais changé son nom. Elle s'appelait Rubinstein, alors que d'autres émigrants qui ont réussi aux États-Unis, Revson est devenu Revlon, Lauder est devenu Lauder. Elle, pas du tout. Son nom, c'était son nom à elle, même si elle avait changé de prénom. Et quand elle a eu les moyens de combattre l'antisémitisme, eh ben, elle l'a fait avec ses moyens financiers. Et puis, elle a aidé aussi, après la guerre, les Juifs en France comme aux États-Unis. Enfin, elle a été quand même très, très, très concernée. Et puis, Tel Aviv à la fin de sa vie, bien sûr. Ouais. Mais n'oubliez pas quand même qu'elle est partie d'un milieu extrêmement religieux et qu'elle s'est vraiment totalement libérée de ces chaînes-là, c'est-à-dire les chaînes de la religion et de l'orthodoxie qui enfermaient les femmes aussi.
Juste une question, parce que pendant que je regardais l'exposition et pendant que je relisais la biographie que vous lui aviez consacrée, je me suis souvenu d'une autre femme à qui vous avez consacré un roman à la rentrée. C'est Janet Flanner. Peut-être que vous pouvez resituer qui était Janet Flanner.
Eh bien, Janet Flanner a été la correspondante du New Yorker de 1925 à 1975 à Paris. New Yorker qui est effectivement née à New York en 1925. Donc, elle racontait la France, l'Europe au New Yorker, à ses lecteurs du New Yorker pendant 50 ans. Et j'ai rencontré Janet Flanner en écrivant Elena Rubinstein, parce que moi, j'aime beaucoup quand j'écris des biographies, prendre un peu les chemins de traverse. Elles se connaissaient, elles étaient amies. Quand j'ai cherché les archives de Janet Flanner à Washington, à la Library of Congress, il y avait vraiment beaucoup de choses, dont un article de Janet Flanner consacré aux collections d'art d'Elena Rubinstein, années 50. Et il y avait écrit à la marge de la plume de Janet Flanner, « Elena Darling m'a offert un rubis pour me remercier d'avoir écrit cet article ». Elena Rubinstein était très généreuse avec les journalistes surtout, et donc elle leur offrait des petits cadeaux.
Voilà. Déjà, avant même que l'on fasse la même chose aujourd'hui en France, avec les rédactrices de mode. Merci à vous, Michel Fitoussi. Je rappelle que l'exposition, donc, Elena Rubinstein, une aventure de la beauté, c'est au Musée des Arts et d'Histoire du Judaïsme à Paris jusqu'au 25 août. La bio est en livre de poche, le catalogue est chez Flammarion, et Janet est toujours disponible chez Stock. Vous restez avec nous toutes les deux, Jeanne Mas et Michel Fitoussi, on va parler musique. Ce sont les nouveautés nouvelles, signé Marion Guilbeault.
Quel genre de musique joue-t-on en général chez vous?
Oh, on n'est pas difficile, ici on aime tous les genres, country, western.
Vous êtes des policiers?
Non madame, des musiciens.
Mercredi sortie pour le cinéma, vendredi sortie des albums, Marion.
Oui Laurent, et on va commencer avec des bonnes nouvelles. The Good News, c'est le titre du deuxième album de Minor Poet. Alors derrière ce nom beaucoup trop modeste, il y a un auteur, compositeur, multi-instrumentiste du nom Andrew Carter. C'est un jeune américain de Richmond, Virginia, qui se bat contre les doutes, la mauvaise image de soi-même, la dépression, l'anxiété sociale. Alors ça fait beaucoup hein, pour un seul homme. Et pour chasser ces nuages noirs de sa tête, eh ben, il écrit les chansons les plus solaires possibles. Les 6 titres de The Good News ont été écrits dans l'esprit de la pop des 60s, superbe harmonie vocale, mélodie contagieuse, tout ça, ça a été enregistré en 4 jours, chez lui, ou presque, dans un petit studio à côté, avec une prise de son proche de celle de Phil Spector et de son fameux Wall of Sound. Alors c'est la dernière signature du label Sub Pop, c'est le label de Beach House, de Wise Blood, dont on a parlé ici, de beaucoup d'artistes qu'on aime au NRV, on va donc leur faire confiance. La pop de Minor Poet. La chanson s'appelle Tropic of Cancer. C'est issu de The Good News. Ça sort demain chez Sub Pop. Jeanne Mas, vous écoutez encore de la musique d'aujourd'hui?
De temps en temps, oui. J'ai découvert un groupe. J'adore ça, d'ailleurs. Je vais m'intéresser à son album. Et ça s'appelle Portugal Demain.
J'adore. Trop bien.
Ouais, j'adore. Donc, je danse sur Portugal Demain. C'est excellent pour mon dos, pour tout. J'adore.
Un groupe américain. Faut pas se fier au nom.
Vous dansez sur quoi, Michel Fitoussi, aujourd'hui?
Je danse pas trop, mais j'écoute beaucoup de jazz. J'adore le jazz.
On part à l'Est maintenant, direction la Grèce, avec un projet très atypique, c'est celui du groupe Acropolis Bye Bye et de son fondateur, Yann Blazan Dorizas. Alors c'est un projet qui s'inscrit dans un mouvement qui semble se dessiner en Europe, c'est celui de revisiter un folklore. Alors on a entendu celui qui se fait autour du Bosphore avec un groupe qui s'appelle Altingen, chez nous autour de la mer Égée avec Johan Papakonstantino qu'on a déjà écouté, qui est en playlist sur France Inter. Et pour Yann Blazan, lui, il est écartelé entre Ithaque et Paris, et l'équation ressemble à ça. Comment retisser un lien entre le rock contemporain, la musique psychédélique et le rebetiko, ce blues de la péninsule grecque. Et comme ça, il peut aussi traduire ses racines familiales, son exil, ses allers-retours entre les deux pays. Alors, il compose et il chante en plusieurs langues, français, anglais, grec. Il joue une multitude d'instruments. Sa musique, c'est comme la bande originale d'un passage entre deux mondes. Et pour ça, il fallait bien un diptyque, deux albums, Greek Revival Music, Métamorphosis. C'est les sons d'aujourd'hui et d'hier qui s'entrechoquent. C'est aussi audacieux qu'une odyssée.
Comme un étranger sur sa propre terre, comme Ulysse naviguant sur une embarcation sommaire, Xénos ici, Xénos là-bas, Ψάχνει για πατρίδα. Τώρα θα σας πω την ιστορία του Οδυσσέα. Sirène, chantez.
KX6. C'est signé Yann Balzan d'Orizas et c'est extrait du double album Acropolis Bye Bye. Pas mal, hein?
Je connaissais Acropolis, adieu.
Ah, d'accord, voilà, bye bye.
Allez. Autre interprète.
Dernier son de ces nouveautés nouvelles, c'est celui de la voix de Mathias Hainaut. Et pourtant, c'est un artiste qui est venu à la chanson par la musique instrumentale. Il est guitariste de formation, il a composé des musiques de films de skate. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui glisse tout naturellement à l'écoute de son premier album, Nuée. C'est un disque où ce solitaire maîtrise tout, ça va vous plaire, hein, jeune masse. Mm-hmm. Il maîtrise ses machines, son charango, sa guitare, ses claviers, sa basse et même sa flûte andine. Wow. Il y a quelque chose de Murat dans son chanté-parlé, quelque chose de Flavien Berger dans son architecture sonore, du R dans ses mélodies très souples, très raffinées. Mais voilà, malgré toutes ces références, Mathias Hainaut, il s'affirme singulier par son écriture. En effet, Nuée ne joue pas du tout sur le couplet-refrain, mais plutôt sur un collage sonore, textuel. Ça lui donne une dimension très contemporaine.
Dans une forêt de lys, les pieds liés à la souche, j'embrasse une déesse. J'ai le sentiment d'être foudroyé sur la bouche. Un éclair à Ménilmontant, je regarde sous les parapluies. J'ai le sentiment d'accumuler des doutes comme la feuille égoutte à la rosée tremblante, la tige se voûte dans une forêt de vis, les pieds transpirent sur les braises. J'ai le sentiment d'être un fakir qui médite jusqu'au vent du matin les traces de quelques lignes écrites que la pluie efface dans une forêt de lys. Une couronne sur vos têtes, sur le goudron, je folâtre. J'ai le sentiment d'être un bouffon, un marchand qui compte par la fenêtre les feuilles de l'être. J'ai le sentiment ouvrir un fruit de la passion au soleil un matin. Je remets des bouées, elles ont un joli dessin. Elles ont un joli dessin. Elles ont un
un joli dessin. Elles ont un joli dessin.
Forêt de Lys, cet extrait de Nuée, le premier album de Mathias Hainaut. La programmation était signée Marion Guilbeault. Et bien voilà, le premier énervé, plutôt le énervé première partie, c'est toujours difficile, hein. C'est fini. On se retrouve dans 25 minutes après le journal et les spots officiels de campagne des élections européennes avec ça.
Partir dans des pays où les touristes ne vont pas trop, pour moi, c'est une réelle satisfaction.
Tourisme en région dangereuse, zone interdite, le rendez-vous est pris, alors à tout de suite.